الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس لقد اهتم الإسلام بالأسرة لأنها أساس البلاد فإن الأسرة بمنزلة الرأس من الجسد أو بمنزلة القلب من الجسد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكذا الأسرة إذا صلحت صلح سائر البلد وإذا فسدت فسد سائر البلد الإسلام دين كامل شامل لجميع جوانب الحياة جاء بكل خير وحذر من كل شر فمن أراد السعادة فهنا تطلب عباد الله لا أسرة ناجحة ذات راحة وسرور إلا بنكاح شرعي إلا بالزواج لذا حث الإسلام على الزواج وحرم الزنا وانتهاك الأعراض قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج فخاطب الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخرجه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فمن مصالح النكاح راحة النفس والسرور حماية الأعراض في تحسين الفرج وغض للبصر في تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية الأمة المحمدية فالزواج إذا كان مبني على الصلاح والإصلاح كله خير ومنافع الزواج من آية الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وما أكثر ما نسمع المشاكل في بعض بيوت المسلمين ولو رجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم لذاقوا الراحة لاستقرت حياتهم ولذاقوا السعادة فلا سعادة ولا راحة إلا بالرجوع إلى دين الله إلا بالرجوع إلى دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وليتحقق السعادة الزوجية جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقا وهذه الحقوق منها ما تكون قبل الخطبة ومنها ما تكون بعد الخطبة فأعطي كل ذي حق حقه، وأول ما نذكر حق الاختيار، والعمدة في ذلك الصلاح، الاستقامة، وحسن الخلق. فهما أو فهذه هي أسس السعادة. فمن عدم دينه أو عدم خلقه عدم خيره، وإن كان غنيا وذات شرف وجمال. ولا ينفع الجمال ولا ينفع المال في مواجهة المشاكل الزوجية. الذي ينفع والذي يبقى هو الدين والصلاح وحسن الخلق. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في اختيار الزوجة المؤمنة الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين وضربت يداك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه أو تعين أحدكم على الآخرة. أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان، وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجال في حسن اختيار فكذا أرشد النساء وأولياء النساء باختيار صاحب الدين، باختيار الرجال الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. كيف تزوج ابنتك رجلا لا يصلي أو يشرب الخمر أو سيء الخلق، سيظلمها يضربها ويوقعها فيما حرم الله تبارك وتعالى، سيضيع الأمانة. فاتقوا الله أيها الآباء في اختيار الرجل الصالح. جاء رجل من الحسن البصري وقال له: قد جاءني رجال خطبوا ابنتي، فمع من أزوجها فأجاب هذا العالم الكبير بالحكمة والعلم فقال: الذي يتقي الله، والأمر الثاني النظر إلى المخطوبة قبل عقد الزواج. إذا علمت المرأة أنك اخترتها بعد النظر إليها والميل إليها لخصلة طيبة رأيت فيها قوية المحبة بعد الزواج. خطب المغيرة بن شعبة امرأة فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يأدم بينكما، ولك أن تنظر إليها إذا كنت صادقا في خطبتها بهذا الشرط، والله مطلع على القلوب، ولا يجوز أن تخلو بها إلا مع ذي محرم، لا يجوز أن تخلو بامرأة ولو أردت الزواج معها. بعض الناس هداهم الله يتخذون صديقات يتشبهون في ذلك بالكافرين الفاسقين الحاقرين للنساء، الغافلين عن مراقبة الله تبارك وتعالى. فنتواصى بتقوى الله وترك ذلك. كيف تسعد في الحياة الزوجية وقد أسست زواجك على ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ ومن حق الزوجة المهر، المهر. وننصح أولياء المرأة بعدم المبالغة في تقدير المهور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو التقوى عند الله لكان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الرجل أن يعطي المرأة مهرها كاملا. قال تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأمر الذي يلي: أن يكون الزواج برضا الطرفين، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج بمن تكره أو لا تريده، وهذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. والله يسأل الآباء يوم القيامة عن هذه المسؤولية الكبيرة. بعض الآباء وفقهم الله وهداهم يكرهون بناتهم على الزواج مع من لا يريدنا، فإذا رفضت المرأة ضربها وأفسد عليها حياتها أو نال من أمها ولامها، كل هذا ظلم ومحرم في دين الله، محرم في دين الله رب العالمين. هذه المرأة، هذه البنت أمانة عندك، هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. فقالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: سكوتها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الحاقدين الحاسدين على دين الله، على دين الله، الكذابين على دين الله، الذين يقولون في الإسلام ظلم للمرأة. والله الذي لا إله غيره، ما عاشت امرأة سعادة مثل ما عاشت امرأة في ديننا. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Essayez d'avancer comme possible. Faites de la place pour ceux qui sont derrière. Essayez d'avancer. Barakallahu fikum. Sachez, chers frères, que l'islam est une religion complète, une religion parfaite, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme notre religion a donné une grande importance au dogme, à la croyance, aux adorations, sachez également que cette religion a donné la plus grande importance à ce qui concerne la vie sociale, à ce qui concerne la famille, le couple et le mariage. Cela car le couple est la base de la société, et la base de la société. Ce couple a donc la place du cœur par rapport au corps. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a dans le corps un morceau de chair, si celui-ci est saint, tout le reste du corps le sera, et si celui-ci est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. De la même façon, le couple est la base de la société. Si le couple est pieux, tout l'ensemble du pays le sera. Et si le couple est mauvais et corrompu, tout le reste de la société le sera. Donc cette religion a donné la plus grande importance au mariage. Ce couple, l'islam a donné la plus grande importance au couple, au mariage et à la vie conjugale. Celui qui veut réussir son couple, celui qui veut acquérir le bonheur dans sa vie, il dit ici-bas et dans l'au-delà qu'il revienne à la religion d'Allah, qu'il cherche ses réponses dans le Coran, dans le livre d'Allah, et qu'il revienne à la tradition prophétique. Car dans cela, il y a le bonheur. Car dans cela, il y a le bonheur sous toutes ses formes. Allah tabaraka wa ta'ala nous encourage au mariage dans le Coran en nous disant « Épousez parmi les femmes celles qui vous plaisent ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les jeunes à se marier en disant « Ô vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse. Ça sera plus proche qu'il puisse baisser son regard et préserver ses parties intimes. Et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne, cela sera pour lui une protection. » Et il y a dans le mariage beaucoup de biens, beaucoup de mérites. Par exemple, en te mariant, tu vas te préserver de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Et une des plus grandes épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans sa communauté, c'est les femmes. Donc celui qui se marie va se préserver des grands péchés, comme la fornication. Il va réussir à baisser son regard devant les femmes dehors. Il va réussir à préserver son honneur et l'honneur des femmes. Celui qui se marie en espérant des enfants pieux va augmenter le nombre des personnes de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il renforcera ainsi la communauté musulmane. Donc en deux mots, le mariage est un bien total. Le mariage est un bien total, mais pour réussir son mariage, il nous faut savoir quels sont les bienséances, quels sont les droits des époux, que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelles sont les conditions du mariage. Le mariage est un des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en toute tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection ainsi que de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et aujourd'hui, et ces jours-ci, ou bien de nos jours, nous entendons beaucoup de problèmes dans la maison de certaines personnes musulmanes. Si ces gens veulent la réussite, si ces gens veulent régler leurs problèmes, il leur faut revenir à la religion d'Allah. Il leur faut revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans cela, il y a tout le bien. Dans cela, il y a tout le bien. Et afin que le couple puisse vivre en toute tranquillité, puisse vivre avec amour et affection, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun des deux époux des droits et des devoirs. Il y a des droits qui sont avant le mariage et il y a des droits qui viennent après le mariage. Avant le mariage, le premier droit, c'est le choix du conjoint, le choix de l'époux. Dans l'islam, on n'a pas le droit d'obliger un homme ni une femme à se marier avec une personne contre son gré. Et la base de ton choix, cher frère, doit être la piété. Doit être la piété. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme est épousée pour quatre choses. » C'est-à-dire en général, lorsque l'homme penche vers une femme, c'est pour une de ces quatre choses. Il nous dit « Pour son argent, c'est-à-dire sa richesse, sa lignée, c'est-à-dire sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. » Ensuite, il nous oriente vers le bon choix en nous disant « Choisis la femme de religion. » Choisis la femme pieuse. Donc il nous a encouragé à choisir la femme pieuse. Il nous dit également que l'un d'entre vous choisit un cœur reconnaissant. Une langue qui invoque beaucoup. Et une femme pieuse, croyante, qui vous aidera dans la vie de l'au-delà. Ou pour la vie de l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les jeunes, a encouragé les hommes à faire le bon choix. Le bon choix, c'est une femme pieuse. Le bon choix, c'est une femme pieuse. Combien sont les hommes qui ont regretté et qui nous viennent aujourd'hui en nous disant « J'ai épousé telle femme et je ne suis pas heureux. » Pourquoi ? Car il a penché que vers sa beauté ou il a penché que vers son argent. Et il n'a pas fait attention à sa piété, à sa droiture. Et par la suite, il a regretté. Celui qui veut une femme pieuse et qui veut construire un futur solide, qu'il choisisse une femme pieuse, qu'il choisisse une épouse pieuse, car cette femme sera la mère de tes enfants. Car la vie est longue et il y a beaucoup d'épreuves. À quoi te servira sa beauté dans les épreuves? À quoi te servira son argent dans les épreuves? Ce qui reste et qui ne disparaît pas, c'est la piété et le bon comportement. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les hommes à faire le bon choix, il a également encouragé les femmes à accepter l'homme pieux, le bon prétendant. Et c'est d'adresser à leurs responsables en leur disant, s'il vous vient une personne qui a une bonne religion, c'est-à-dire quelqu'un de pieux et qui a un bon comportement, c'est-à-dire envers les gens, alors mariez-le. Si un homme vient frapper à votre porte pour demander votre fille et que vous trouvez ces deux qualités en lui, c'est un homme pieux qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, qui préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un bon comportement envers les serviteurs d'Allah, alors mariez-le. Et si vous ne le faites pas, il découlera de cela beaucoup de troubles sur la terre. Celui qui marie sa fille à un homme qui n'est pas pieux ou à un homme qui a un mauvais comportement, il le regrettera tôt ou tard. Il n'a pas respecté le dépôt qu'Allah Azza wa Jal lui a mis entre les mains. Il n'a pas honoré sa responsabilité. Comment est-ce que tu peux marier ta fille à un homme qui ne fait pas la prière? Comment est-ce que tu peux marier ta fille à un homme qui boit de l'alcool? Il va l'opprimer, il va la frapper, il va la dépouiller de ses droits. Il ne s'acquittera pas de ses devoirs envers elle. Et c'est toi le responsable. C'est toi qui as mis ta fille dans cet enfer. Et au jour d'aujourd'hui, tu n'as que tes larmes, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mais c'est toi qui es la cause de cela. C'était un dépôt, c'est une responsabilité. C'est un don qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est un don et un dépôt qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, cette fille. Alors ne la marie pas si ce n'est à un homme pieux qui craint Allah tabaraka wa ta'ala et qui a un bon comportement envers les gens. Troisièmement, le fait de regarder la femme que tu souhaites épouser. Le fait de regarder la femme que tu souhaites épouser est permis dans l'islam. Et si la femme sait que tu as penché vers elle après avoir vu en elle de nobles qualités, cela sera une cause pour que l'amour soit renforcé après le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Al-Mughira, après qu'il lui ait dit qu'il souhaitait épouser une femme, il lui a dit « Va et regarde-la. Va et regarde-la, ce sera une cause pour que votre mariage dure. » Donc de regarder la femme avant de se marier avec elle est permis. Mais cela doit être dans les limites de l'islam. Premièrement, tu dois avoir la ferme intention de la demander en mariage. Sinon, tu n'as pas le droit de la regarder en prétextant vouloir la demander en mariage. Deuxièmement, tu n'as pas le droit d'être avec elle en aparté. Tu n'as pas le droit de lui parler ou de rester avec elle en privé, même si tu souhaites l'épouser. Et de cela, tu comprends la grande erreur de beaucoup de jeunes lorsqu'ils fréquentent les femmes. Et lorsque tu leur dis « Craignez Allah, cela est muharram, craignez Allah, cette femme est la fille d'un musulman ou d'une personne », ils répondent « Je vais me marier avec elle et je l'aime ». Tu ne l'aimes pas. Si tu l'avais aimé pour Allah Azza wa Jal, tu l'aurais délaissé et tu ne l'aurais pas fait tomber dans les grands péchés. Le point qui suit, parmi les droits de la femme, la dot. C'est un droit qu'Allah Azza wa Jal a accordé à la femme. Et Omar ibn al-Khattab a déconseillé aux parents d'exagérer dans la dot, en disant « N'exagérez pas dans la dot des femmes. Si cela avait été une noblesse dans ce bas monde ou une marque de piété auprès d'Allah, le Mohammed aurait été plus en droit que vous de demander des dots élevées. » Et il a été rapporté qu'il n'a jamais dépassé 500 dirhams pour une dot que lui a donnée ou a demandé pour ses filles. Et ce sont les femmes les plus pieuses et les plus pures. L'homme a l'obligation de donner la dot à cette femme. Elle n'a pas de minimum ni de maximum. Allah dit dans le Coran « Et donnez aux femmes leur dot. » Et une remarque ici. La dot est la propriété de la femme exclusivement. Personne n'a le droit de prendre de cette dot contre le gré de cette femme. Maintenant, si elle sort une partie de cette dot pour la donner de plein gré aux gens de sa famille ou à une personne, cela est permis. Mais de prendre la dot de la femme, cela est haram et c'est du zulm sur lequel les gens seront questionnés yawm al-qiyamah. Le dernier point et un des derniers points que nous citons, l'agrément des deux parties. L'agrément des deux parties. Nous n'avons pas le droit de marier une fille contre son gré, ni de marier le fils contre son gré. Et certains, parmi les parents, pensent faire le bien pour leur fille en la contraignant à épouser celui qu'eux ont choisi. Le père est bien placé pour choisir le mari de sa fille. Mais si celle-ci refuse, ou si celle-ci déteste cet homme, il n'a pas le droit de la contraindre au mariage. Il n'a pas le droit de la contraindre au mariage. Et parmi les gens, on trouve certaines personnes qui forcent leur fille à se marier. Et si elles refusent, ils les battent. Ou bien oppriment leur mère. Tout cela est de l'injustice. Tout cela est de l'injustice devant laquelle ces chers pères doivent se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la femme ne peut être épousée sans sa permission. La femme qui est divorcée ne peut être épousée sans sa permission. Et la femme qui n'a jamais été mariée ne peut être mariée sans son accord. Alors les compagnons disent, ah Rasulallah, mais quel est l'accord de la femme qui n'a jamais été mariée? Du fait qu'elle est très pudique. Du fait qu'elle est très pudique, peut-être qu'elle ne va pas s'exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idnuha sukutuha, sa permission et son silence. Sa permission et son silence. Donc si la femme refuse de se marier, nous n'avons pas le droit de la contraindre au mariage. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit qu'une femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que son père l'a mariée avec un homme qu'elle ne voulait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux tu restes avec lui, et si tu veux j'annule le mariage. Si tu veux tu restes avec lui, et si tu veux j'annule le contrat de mariage. Et dans cela il y a une réputation pour les ennemis de l'islam et ceux qui sont jaloux de notre religion et qui sont jaloux de nos femmes et de nos filles et de nos mères. Du fait qu'Allah Azza wa Jal les a honorés par cette noble religion. Ceux qui disent que la femme n'a pas de droit dans l'islam, ceux qui disent que la femme est humiliée dans notre religion, ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là sont des menteurs et ils veulent le mal pour les musulmans et pour les femmes musulmanes. Wallahi, aucune femme n'a vécu dans la joie, la beauté et la tranquillité de cette... Aucune femme ne vivra dans, dans l'ombre de cette religion ou bien sous l'ombre de cette religion sans goûter au plus grand bonheur dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. La femme musulmane a de grands droits. La femme musulmane a été élevée du moment où elle était dans le ventre de sa mère jusqu'au moment où elle rentrera dans sa tombe. La femme musulmane a été élevée. Elle a des droits qu'on n'a jamais trouvés dans une autre religion. Et c'est Allah Azza wa Jal qu'on demande de nous apprendre notre religion et de nous la préserver. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on citera les droits des époux après le mariage. Wa nas'Allah Tabaraka wa Ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira 'anna sayyi'atina wa yatawaffana ma'al abrar. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il est interdit de parler pendant la khutba. Il est interdit de parler pendant la khutba. Il est interdit de parler pendant la khutba. والحمد لله.